Science en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Science en liberté. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Tout a commencé il y a fort longtemps. Un petit animal, pas plus gros qu'une musaraigne, a traversé les temps. C'était une étrange époque, farouche, où même les dinosaures n'étaient encore qu'une des probabilités du monde. À l'issue du Permien, tout avait presque disparu. Plus de 96% des espèces avaient connu cette autre hécatombe, la crise finie permienne, il y a 250 millions d'années. La crise finie permienne a été la plus dévastatrice du monde, et la crise crétacé-tertiaire, c'est la plus connue, mais ça a été moins fort. Pourtant, ces deux grandes crises biologiques encadrent un des événements majeurs de la biologie, l'émergence, puis la radiation des mammifères. Car c'est après le Permien que des animaux reptiliens vont connaître le changement décisif qui fera d'eux des mammifères. Quand on regarde un Morganucodon, cette petite bête bizarre qui ressemble à une musaraigne, on n'hésite presque pas à deviner qu'il s'agit d'un mammifère. Pourtant, au début du Trias, il y a 252 millions d'années, rien ne laisse encore présager l'importance de ces espèces. Pas plus d'ailleurs que l'arrivée prochaine de ceux que nous appellerons par la suite les dinosaures. Avec la plus grande extinction d'espèces vivantes dans l'histoire de l'évolution de la vie sur la Terre, le Trias va voir progressivement une rediversification de la faune. Et les dinosaures seront là pour affronter une nouvelle, plus petite crise qui les fera entrer dans le Jurassique. Pendant ce temps, les mammifères ne sont guère apparents. Tout petits, très discrets. Et pourtant, bientôt leur physionomie va se propager sur l'ensemble de la Terre, en même temps que les continents vont peu à peu se faire face. Qu'y a-t-il de commun entre un Morganucodon et un ours blanc? Entre une chauve-souris et un kangourou? Entre un tatou et un humain? Eh bien, chacun de ces animaux connaît une phase commune. Chacun de ces animaux, le Morganucodon, l'ours blanc, la musaraigne, le tatou et le petit dôme, ont toujours, un jour, bu du lait. L'aventure des mammifères se confond avec l'apparition de cette incroyable sécrétion mammaire, le lait. Un liquide bourré d'énergie, de protéines et des graisses qui suinte du corps de la mère. Certes, les mamelles n'ont jamais pu se fossiliser. Ces organes mous, gonflés de lipides, ne peuvent pas rester dans la pierre. Mais il y a d'autres éléments qui signent la présence des fossiles de mammifères et d'autres organes qui indiquent comment ils sont nés. Le lait a suivi ce parcours pour faire des mammifères les seuls êtres vivants dépendants du lait. Du lait maternel au demeurant, car les mâles n'en produisent pas. pas de poitrine chez les mâles, rien pour aider à l'élevage des juvéniles. Après avoir fait si peu de choses pour leurs bébés démunis, les mâles de mammifères ne vont rien d'autre, abandonnant le soin maternel et la lactation aux seules femelles. Encore une étrangeté de la nature, ce dimorphisme sexuel incroyable des mammifères qui donnent aux femelles la gestation et le nourrissage lactéal. Mais cette bizarrerie n'est pas la seule dans l'aventure exceptionnelle de ces animaux-là. Et de tous les mammifères, il y en a un qui regarde tous les autres sans bien appréhender ni la zoologie ni l'évolution. Un être humain qui se pense si différent des autres mammifères. Est-il si unique, lui qui a inventé cette société étrange et exploiteuse des uns et des autres, lui qui vit aujourd'hui dans cette organisation hégémonique du capitalisme? Le monde marchand n'a pas 6000 ans et ne représente que 2% de l'histoire de l'humanité et moins de 0,02% de l'histoire des mammifères. À cette échelle, les humains ne sont déjà qu'une probabilité si faible d'exister et le capitalisme, un système imbécile et complètement improbable. Et pourtant, nous y sommes. Alors que dire de cette évolution inouïe ? L'essor des mammifères a-t-il signé le destin du monde ? Eh bien, nous allons en discuter sur Radio Libertaire pour découvrir qu'il n'y a rien de dessiné, rien d'obligatoire, mais que cette évolution reste le fruit de si petits événements successifs que tout paraît possible, même les révolutions.
Nous sommes, vous êtes, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, une radio associative sans maître. Et nous écoutions Four Greens Fields, Dublin City Rambles. Alors Thierry, nous allons rentrer dans une belle histoire, notre histoire, l'histoire des mammifères. Donc, peux-tu nous situer pour le moment toutes ces durées géologiques pour qu'on essaye d'appréhender les durées?
Oui, Siona. En fait, quand on parle de l'évolution de la faune, il faut vraiment avoir à l'esprit que ce sont des périodes extraordinairement longues. Ce sont des centaines de millions d'années. 250 millions d'années, 220 millions d'années pour les mammifères. Alors que si on prend par exemple la grotte de Lascaux, elle a été peinte par les hommes préhistoriques il y a, si je puis dire, seulement 25 000 ans. Et l'Empire romain, ça date de 2500 ans.
Et peux-tu resituer ? L'histoire, la naissance de notre planète date de...
Alors, à peu près 4,3 milliards d'années, mais l'histoire de la faune sur la planète, c'est à peu près 3 milliards d'années. C'est là qu'apparaissent les premières bactéries, les premiers eucaryotes. Et franchement, il a fallu attendre jusqu'à 250 millions d'années pour voir les premiers amphibiens commencer à se transformer en reptiles, ce qui va donner par la suite les mammifères. Mais en plus de toutes ces périodes extraordinairement longues, il faut imaginer que tout ça s'est pris dans des changements de climat. Il y a des périodes très humides qui vont alterner avec des périodes très sèches, ou voire très froides. Et ça pendant des millions d'années. Pendant le Permien, par exemple, c'est des millions d'années de périodes très sèches. Et puis, il y a aussi les continents qui se baladent, des terres qui vont émerger pour former des archipels, des chapelets d'îles, des montagnes qui vont s'élever lorsque les masses continentales vont se percuter. Par exemple, les Appalaches, elles vont se former, les Appalaches en Amérique, quand l'Afrique va cogner dans ce qui sera par la suite l'Amérique. Et ensuite, on va avoir même la partie californienne qui va taper dans le reste de l'Amérique pour former les fameuses montagnes rocheuses, par exemple. Ensuite, tout ça, ça va se séparer en fonction de l'ouverture de l'océan Atlantique. La même chose pour l'océan Indien. Une partie du continent africain va percuter l'Asie, ça va donner le Tibet et toutes ces hautes montagnes comme l'Himalaya, par exemple.
Et tous ces éléments vont aussi configurer une végétation, enfin des évolutions différentes.
Oui, tout à fait, s'il y en a, car il y a aussi des changements de végétation. On va avoir les premières fougères arborescentes, puis les conifères qui vont apparaître, et enfin à la fin du Crétacé, il y a seulement 80 millions d'années, mais c'est quand même des millions d'années, on va avoir les premières plantes à fleurs avec les premiers butineurs, et puis bientôt on va avoir l'apparition de l'herbe. L'herbe, c'est-à-dire les graminées, ce qui va complètement changer la face du monde, puisque les premiers herbivores, les premiers végétariens vont réellement pouvoir se mettre en place. Auparavant, les consommateurs de fougères vont avoir des dents tout à fait différentes, une manière de s'alimenter tout à fait différente, et cette disparition des plantes va entraîner là aussi la disparition des faunes.
Et donc nous arrivons aux mammifères.
Alors oui, l'histoire des mammifères remonte donc à peu près comme celle des dinosaures, c'est à peu près à la même époque, il y a 220 millions d'années en plein Trias. Alors ce qu'il faut voir, c'est que si les tout premiers mammifères sont apparus en même temps que les dinosaures, ils ne vont pas affirmer leur suprématie de la même manière. Ce sont des tout petits animaux. En général, on les considère comme vraiment des animaux débutants. Et puis pendant près de 160 millions d'années, les mammifères vont rester dans l'ombre du règne de ce qu'on va appeler les dinosaures.
Alors donc ils ont été les deux présences concomitantes.
Les deux présences simultanées, oui. C'est-à-dire que les dinosaures vont apparaître quasiment en même temps que les mammifères. Mais eux vont connaître une plus grande ascension, une plus grande apogée à partir du Jurassique, alors que les mammifères, eux, vont rester beaucoup plus discrets. Alors ce sont des animaux qui ressemblent à des petites musaraignes et qui servaient de repas aux dinosaures. On sait aujourd'hui que certains d'entre eux, de ces premiers mammifères, vont être capables aussi d'aller manger des petits dinosaures et des œufs de dinosaures. Mais leurs fossiles semblent vraiment tout à fait minuscules comparés à ceux des dinosaures.
Minuscules, c'est-à-dire tu peux donner un ordre de taille approximatif?
C'était des petits animaux de quelques centimètres, de la taille de la musaraigne jusqu'à la taille du loup. Mais on va en reparler tout à l'heure plus précisément. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mammifères, ça semblait vraiment des animaux improbables, presque destinés à rester dans l'ombre des dinosaures. Et puis, il faut attendre, il y a 65 millions d'années, quand la Terre va connaître une série de nouvelles catastrophes, où là, ça va mettre fin à la présence des dinosaures. Et ça a été là que la première grande diversité des mammifères d'aujourd'hui va se mettre en place. Alors reprenons. Tout d'abord, il faut se resituer un tout petit peu. Il y a 300 millions d'années, c'est le milieu du Carbonifère. Au milieu du Carbonifère, les insectes commencent à être en place, les premiers insectes, pas les insectes butineurs, mais des animaux comme les mouches ou encore surtout comme les libellules. Eh bien, on va avoir apparaître les amphibiens. Les amphibiens, ce sont des poissons qui vont sortir de l'eau grâce à cette grande période de sécheresse. Mais ces amphibiens, ils ont besoin de pondre leurs œufs dans de l'eau. Et la première modification va entraîner la formation de ce qu'on va appeler l'œuf amniotique, c'est-à-dire un œuf enveloppé dans une poche particulière. Au lieu d'être nu, comme celui des grenouilles ou des premiers amphibiens, l'œuf va être plongé dans un liquide primordial, protégé par une enveloppe un peu de cuir qu'on va appeler l'amnios. Donc ça veut dire que l'embryon va se développer dans son petit océan à lui tout seul, au lieu de se développer à sec. Et c'est cette transformation de l'œuf qui va permettre aux animaux de l'époque de s'aventurer plus loin des lacs, plus loin des océans. Ce sont les tout premiers reptiles, comme Ilonomus par exemple, et ils vont pouvoir pondre grâce à cet œuf amniotique, et ils vont pouvoir coloniser des milieux de plus en plus secs et de plus en plus arides.
Donc les reptiles se différencient des amphibiens il y a environ 300 millions d'années.
Et tout ça grâce à leur œuf amniotique, s'il y en a. C'est-à-dire qu'en quelques millions d'années, on va avoir apparaître plusieurs branches, donc il y a une forte diversité. On va dire grosso modo, on a une branche qu'on va appeler les synapsides. Actuellement, ce sont les mammifères, nous sommes des synapsides.
Ah, d'accord.
Et de l'autre côté, il y aura les sauropsides qui incorporent actuellement les tortues, les lézards, les serpents, les crocodiles et même les oiseaux qui sont les derniers survivants des dinosaures. Alors, la grosse différence, c'est que dans le crâne d'un diapside, on va avoir deux fosses temporales, c'est-à-dire une fosse en haut, une fosse en bas. C'est une fosse qui se situe derrière l'orbite, et donc une fosse qui va permettre de maintenir la mâchoire et une autre fosse qui va être derrière les yeux. Alors que chez les synapsides, c'est-à-dire les animaux comme nous, nous n'avons qu'une seule fosse temporale derrière l'orbite. C'est la fosse temporale du bas, en fait, qui va rester. Et c'est là que va pouvoir se loger ce processus allongé de la mâchoire, hein, qui est tout à fait particulier. Vous savez, quand on regarde une mâchoire, on voit bien qu'il y a la mâchoire qui porte les dents, puis il y a un truc qui remonte vers le crâne. Mmh. Et bien, c'est là que se loge, en fait, dans ce creux synapside, que va se loger la fosse temporale et donc la situation de la mâchoire. Et ça va tout changer.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire que petit à petit, on va voir à l'intérieur de ce creux la mandibule qui va pouvoir s'accrocher d'une manière tout à fait particulière. Mais revenons au tout premier reptile mammalien. À la fin du Permien, on va donc connaître une grande crise. Mais pendant le Permien, il y a 300 millions d'années, 250 millions d'années à peu près, entre 299 et 251 pour être précis, des animaux terrestres, des reptiles terrestres, les pélicosauriens, vont être en fait les plus répandus de leur temps. Alors, c'est eux qui sont dans la lignée droite des mammifères. C'est à partir de ces pélicosauriens, de ces reptiles qu'on appelle des reptiles mammaliens, qui va former, à travers plusieurs stades, les premiers synapsides. Au départ, on a donc des reptiles qui ressemblent à des gros lézards, comme par exemple les Dafosaurus ou encore le Dimétrodon.
Dimétrodon, il a une grande voile.
C'est le lézard qui porte une grande voile. Cette grande voile solaire, on suppose qu'elle servait à ces animaux pour s'enrichir du soleil, pour pouvoir se chauffer au soleil et donc être actif à peu près tout le temps. Bon, les pélicosauriens vont vraiment dominer la planète à l'époque du Permien, dans ces grands déserts de l'époque, hein, et ils vont se balader dans ces grands déserts. Alors il y en avait des grands, des plus petits. Ophiacodon, par exemple, était un petit pélicosaurien, alors que le Dimétrodon, c'était l'un des plus grands. On sait aujourd'hui que ces dimétrodons, les femelles avaient déjà un comportement maternel, qu'elles protégeaient leurs œufs, qu'elles étaient capables de surveiller tout ça. Mais on sait aussi qu'il y avait des animaux qui se mangeaient les uns les autres, sans trop poser de questions. Et cette grande voile qu'ils avaient sur leur dos leur permettait d'atteindre une température de métabolisme assez rapidement grâce au chauffage du soleil. C'est petit à petit comme ça que va commencer à se mettre en place ce qu'on va appeler l'homéothermie, qui va nous différencier des reptiles, puisque les reptiles sont des animaux dits à sang froid, alors que les mammifères sont des animaux dits à sang chaud. En fait, ils sont homéothermes, capables de maintenir leur température. Ça a un coût, hein, c'est pas si simple que ça. Et puis donc, à l'issue de tout ça, on va voir apparaître vers la fin du Permien les tout premiers thérapsides, les thérapsidés, comme par exemple les Placerias, qui vont apparaître. Alors, ce sont des très gros animaux, des très gros reptiles déjà. Ils font plusieurs centaines de kilos. Hein. On a affaire à des très gros animaux. Et puis, on va voir apparaître d'autres animaux qui vont se différencier de ces premiers pélicosauriens dès le milieu du Permien. À la fin du Permien, on n'aura plus que la grande majorité des tétrapodes. Ça ne sera plus que des thérapsidés. Les pélicosauriens vont quasiment s'arrêter là. Et puis évidemment, à la fin de tout ça, on va connaître la fameuse crise finipermienne.
Nous sommes donc à une crise que tu appelles finipermienne parce qu'elle a détruit beaucoup d'espèces.
Alors c'est la crise de la fin du Permien et c'est la crise la pire qu'il y ait jamais eue sur cette planète puisque 96% de la faune va disparaître. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à la fin du Permien, les formes dominantes de vie sont des grands amphibiens hein, de plusieurs mètres de long, de 2 à 5 mètres par exemple, et puis ces fameux grands reptiles, thérapsidés, qui sont arrivés après les premiers pélicosauriens. Il y a aussi une vie marine qui est très riche, hein. Il y a beaucoup de mollusques, des échinodermes, des brachiopodes, enfin toute une série de faunes tout à fait particulières. Et puis il y avait les fameux trilobites, les trilobites qui étaient formés de trois grands lobes et qu'on connaît bien sous la forme de fossiles, eh bien ils sont en train de disparaître. En fait, les conifères sont apparus au moment du Permien, et on va voir en fait des nouvelles espèces apparaître au moment de cette crise finipermienne. Alors cette crise finipermienne, on la connaît mal, c'est pas une crise qui est très bien connue. On sait qu'il y a une asphyxie des océans, probablement liée à un volcanisme majeur, probablement à cause des trappes de Sibérie, de ces grands volcans de Sibérie, des baisses très importantes du niveau de la mer, qui s'associent à des hausses du niveau de la mer. Enfin, c'est une crise absolument épouvantable. Et à partir de là, il y a 250 millions d'années, on arrive sur le Trias, avec un hyper grand continent qu'on appelle la Pangée. Et là, on va avoir une atmosphère chargée de gaz carbonique, ce qui va beaucoup influencer l'environnement. Ça va faire diminuer la taille des insectes, hein, qui vont devenir de plus en plus petits. La végétation va être moins luxuriante, mais enfin, il y aura des formes beaucoup plus nombreuses et différentes de ce qui se passait avant. Et notamment, on va avoir des éléments apparentés aux conifères qui vont envahir petit à petit les terrains les plus secs, ce qui fait que le terrain va petit à petit devenir plus humide et plus chaud. Le début du Trias, c'est une époque qui est très difficile pour l'ensemble des thérapsidés, et ces fameux thérapsidés vont petit à petit devenir des mammifères. Voilà pourquoi on les appelle
donc
des reptiles.
Les thérapsidés, c'était les reptiles
c'est
mammaliens.
C'est les reptiles mammaliens, voilà. Et ces reptiles mammaliens, parce qu'ils ont des caractères ressemblant aux mammifères, vont petit à petit se différencier. Notamment, ce sont les cynodontes, qui sont les principaux prédateurs, et puis les lystrosaurus, qui vont être les principaux herbivores. Mais il faut attendre quasiment la mi-Trias pour que les autres archosauriens, ce qui va devenir petit à petit les dinosaures, vont dominer toutes les grandes niches écologiques. Et eux, ils seront aussi bien herbivores que carnassiers. Ce qui fait que les thérapsidés vont évoluer en plusieurs étages. On aura à la fois des animaux plus petits, qui vont ressembler aux pélicosauriens d'avant, et puis qui vont aboutir à des animaux qui vont être encore plus petits et qui vont ressembler aux mammifères. Alors les tout premiers cynodontes, en fait, vont quand même avoir de l'importance, hein, mais c'est des animaux qui vont quand même décliner petit à petit, et c'est au cours de ce déclin qu'il va y avoir apparition des premiers, vraiment des tout premiers mammifères.
Thank you. gonna die.
Les Pretty Records interprétaient « Make me wanna die ». Revenons à nos thyrapsidés. Donc, ce sont des animaux à mamelles, mais en même temps qui étaient en présence des cynodontes. Alors, et qui sont
les cynodontes ne sont pas des animaux à mamelles.
Non.
Les premiers animaux à mamelles seront les mammifères. Ce sont des animaux qui ressemblent, s'il y en a, à des gros reptiles.
D'accord.
Mais ce sont des reptiles déjà plus petits. Donc, on va avoir la taille du chien, là, à peu près, hein, chez des animaux comme le cynodonte. Alors, cynodonte, ça veut dire « à dents de chien », mais ce sont des animaux qui sont un petit peu plus grands que les chiens, selon les espèces. On va avoir les dicynodontes, les ptérocéphales, enfin, etc., et les cynodontes. Ce sont les seuls qui vont survivre jusqu'à la fin du Trias, et là, ils vont disparaître. Ils vont disparaître parce qu'à la fin du Trias, on va avoir aussi une autre petite crise, la crise Trias-Jurassique. Hein,
qui est moins importante, celle-là, par
beaucoup moins importante, oui. Mais c'est au cours de juste avant cette crise, en fait, qu'on va voir apparaître les premiers mammifères. Pour reprendre, les premiers thérapsidés et les premiers grands reptiles mammaliens ont donc une articulation de la mâchoire qui est très en arrière du crâne. Et c'est parce que l'oreille est située derrière la mâchoire. Ça va être assez proche du cerveau et c'est une organisation particulière qui limite en quelque sorte la taille du crâne. Parce qu'il oblige les muscles de la mâchoire à être autour, en dessous et un peu partout. Avec l'évolution de l'oreille, on va avoir la mâchoire qui va être libérée. Par exemple, chez les reptiles, on va garder un os qui s'appelle l'os carré, qui maintient la mâchoire avec des muscles particuliers sur le crâne. Là, plus d'os carré, l'os carré va migrer dans l'oreille moyenne. Et donc, la mâchoire va être directement associée grâce à cette fosse qui va libérer certains os particuliers du crâne. Et donc, comme ces os particuliers vont être libérés, eh bien, du coup, la mâchoire va pouvoir s'appuyer directement grâce à un petit processus osseux dans une sorte de rond, hein, de trou particulier. Et ça va pouvoir bouger presque dans tous les sens. Cette mâchoire, elle va être parfaitement maintenant efficace avec beaucoup moins de muscles. Alors on va retrouver ces fameuses évolutions de la mâchoire chez des animaux comme l'Adrocodium par exemple.
Oui, ça veut dire qu'en fait les reptiles, ils ne pouvaient bouger leur mâchoire que avec deux sens comme ça, enfin vertical,
etc. Découper des
poids. Tandis que nous, les mammifères,
on peut mâcher parce qu'on peut bouger la mâchoire un peu dans tous les sens. Quand on pense par exemple aux chèvres qui se démandibulent complètement sur les
tout
côtés,
à fait, oui.
Voilà, ou à d'autres animaux. Et puis on va avoir conjointement à tout ça, une évolution des dents. On va avoir des dents complexes. On parle de plexodontes chez les mammifères, alors que chez la plupart des reptiles, on a des dents toutes simples, des petits cônes qu'on appelle des dents aplodontes. Toutes ces modifications-là font que les premiers vrais mammifères vont apparaître avant la fin du Trias. Ces premiers vrais mammifères, c'est probablement des animaux comme Morganucodon, Megazostrodon, Abelosobasilus. Tous ces animaux-là sont des proto-mammifères, hein. Sont des vrais mammifères, mais les paléontologues hésitent un peu à les nommer vraiment comme ça, parce qu'on n'a pas la preuve de leurs mammifères, de leurs mamelles, hein, on n'a que la preuve de leurs dents. Le cerveau est deux fois plus gros que ce qu'il était auparavant, avec un bulbe et un cortex olfactif extraordinaire. Et puis, on sait que la caséine, c'est-à-dire la protéine du lait, est apparue chez l'ancêtre commun de tous les mammifères il y a, on va dire, au moins 250 millions d'années. Donc là, on remonte au début du Trias, ce qui veut dire que dès le début, chez les thérapsidés, on avait déjà, probablement, la mise en place de la lactation et donc l'apparition des premiers mammifères, puisque tout ce qui rend les mammifères communs, c'est le fait qu'ils possèdent cette capacité à produire du lait.
Quelles sont finalement les conséquences qui vont nous faire rentrer dans l'ère du Jurassique, des dinosaures ?
Alors en fait, les conséquences de cette grande crise, c'est qu'il y a 70% des espèces qui vont disparaître. Les dinosaures sont déjà apparus. Mais là, maintenant, ils vont devenir de plus en plus grands et leur faune va s'installer. On va avoir un effondrement des écosystèmes, des chaînes alimentaires qui vont se rétablir en quelques 6 millions d'années. Donc c'est une crise qui dure quand même très longtemps. Les espèces dominantes vont être contestées dans leur niche écologique et donc les cynodontes, qui au départ étaient assez importants, ils vont devenir beaucoup moins importants à l'époque. Et donc on va pouvoir parler maintenant des mammifères, mais que la plupart des paléontologues qui ont du mal avec la définition de mammifères vont finir par appeler des mammaliaformes. Alors, les mammaliaformes ne sont pas forcément un nom qui est reconnu par tout le monde pour l'instant, mais c'est parce que jusqu'à présent, un mammifère, il était reconnu comme mammifère s'il avait ce critère de la mâchoire et de l'oreille dont on a parlé précédemment, hein, l'articulation de la mâchoire des mammifères, qui se fait avec l'os du mandibule, hein, le processus particulier, le processus coronoïde. Et les reptiles, eux, ils avaient l'os carré. Mais plus récemment, les paléontologues, ils ont trouvé que ces mammifères anciens étaient relativement anciens, alors que des mammifères du Jurassique étaient plus proches des mammifères actuels. Donc, ils ont préféré leur donner le nom de mammaliaforme. Alors, c'est discuté, hein, ce sont des critères difficiles à déterminer. Enfin, disons qu'on parle par exemple que les cynodontes vont donner des animaux ressemblant à des mammifères qui seront les mammaliaformes, alors que d'autres disent, ben non, ce sont des vrais mammifères, puisque depuis maintenant plus de 50 millions d'années, ils boivent déjà du lait, et ils sont très très proches. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont quand même des caractéristiques olfactives absolument uniques, et c'est probablement à l'origine du développement de leur cerveau. Alors, on a pu montrer, notamment une équipe de l'Université du Texas, en analysant au scanner les empreintes crâniennes de Androcodium ou encore de Morganucodon, que ces mammifères ancestraux, certains vivant en Chine il y a près de 200 millions d'années, eh bien, ils avaient effectivement ce développement colossal de leur système du bulbe olfactif et de leur système nerveux olfactif, comparé à leurs plus proches cousins non mammifères. Ils ont un cerveau deux fois plus gros, et évidemment, c'est quand même un facteur très important pour parler de l'évolution de ces animaux, les mammifères.
Les mammifères sont apparus avant le Jurassique.
Alors, les mammifères sont apparus au Trias, en même temps que les dinosaures. Les dinosaures sont apparus, eux aussi, un peu avant le Jurassique. Le Jurassique, c'est il y a 200 millions d'années. Et puis, ils vont se développer jusqu'au Crétacé. Pendant la même période, les mammifères vont être beaucoup plus discrets. Alors, il faut se souvenir que c'est en 1824 que William Buckland a, dans la Société géologique de Londres, commencé à présenter un élément tout à fait particulier. Ces éléments, ces parties animales, on en discutait à l'époque, et il avait mis la main sur des ossements gigantesques qu'il était prêt à commenter. Et en fait, devant toutes les étudiants étonnés, il a montré que ces os étaient ceux d'un grand lézard géant qu'il a appelé le Megalosaurus. C'était la toute première découverte d'un dinosaure du Jurassique. Mais ce jour-là, en même temps, on a découvert d'autres petites faunes. Notamment, Georges Cuvier avait découvert des petites mâchoires qui avaient été découvertes pas loin d'os géants également. Et ces petites mâchoires, Cuvier avait réussi à les identifier comme étant marsupiales, c'est-à-dire c'était des mammifères. Voilà donc une découverte déconcertante, puisqu'à l'époque, on trouvait à la fois des mammifères et des reptiles. Mais évidemment, les grands reptiles de l'époque, avec leurs mâchoires de géants, on a fini par les appeler des lézards géants, hein, ces fameux dinosaures, ces lézards terribles. Et ces mammifères qui avaient déjà probablement un long passé au Jurassique, sont quasiment passés un peu inaperçus.
Les dinosaures se sont donc développés surtout au Jurassique.
Alors oui, il faut se resituer le Jurassique. Donc les dinosaures ont commencé à se développer au Trias, à la fin du Trias. Mais au début du Jurassique, le supercontinent, la Pangée, commence à se casser. Le climat reste chaud et on va avoir le Gondwana, un supercontinent qui va se séparer de la Pangée durant toute cette période-là. Ça, c'est le Jurassique, il y a en gros 160 millions d'années. Alors il y a eu des animaux très importants au Jurassique, les fameux grands dinosaures. Mais dans le même temps, on voit apparaître des animaux pas si petits que ça. Si on pense par exemple au Megaconus, c'est un animal de la taille d'un chien et c'est un mammifère. Il est en fait un doconodonte et le plus connu de tous les doconodontes, c'est probablement Castorocoda, c'est bien ça. L'animal à queue de castor, ce sont des animaux qui ont vécu en plein milieu du Jurassique, il y a 164 millions d'années. Et ils ont été découverts tout récemment, c'est entre 2006 à peu près qu'ils ont été décrits. Parce que ce sont des animaux qui ont été découverts soit en Chine, soit en Amérique. Et donc ce sont des fossiles mammaliaformes ou mammifères, on ne sait pas trop comment leur donner le nom, qui ne sont pas petits. Hein. Par exemple, notre ami à queue de castor, le Castorocoda, fait environ 43 cm et le Megaconus est vraiment la taille d'un petit chien. Hein. Donc ce sont des animaux qui pèsent entre, on va dire, 1 kg et 2-3 kg. Évidemment, par rapport aux grands reptiles.
Voilà, j'allais dire, bon, petit, la taille est toute relative.
Ah ben ça n'a rien à voir avec la taille des grands dinosaures de l'époque. Voilà pourquoi ce sont probablement des animaux qui sont restés très discrets pendant toute cette époque-là. Et puis, on va voir apparaître un autre groupe, mais qui, lui, ne va pas laisser de descendants par la suite. Ce sont les multituberculés. Alors, on les appelle multituberculés
à cause de leurs bosses sur leurs molaires, parce que justement, on a ces fameuses dents qui commencent à devenir de plus en plus complexes. Et très probablement que ces animaux étaient capables de manger la flore de l'époque, hein, surtout fondée de grandes fougères arboricoles et de conifères, et on peut considérer que les multituberculés, c'était en quelque sorte les rongeurs, les petits rongeurs de cette grande époque du Jurassique et du Crétacé. Alors c'est un excellent exemple de ce que l'évolution fait. En quelque sorte, il y a des essais puis qui vont échouer, puisque ces animaux-là vont être liés à la flore de l'époque, et quand cette flore va disparaître au Crétacé, eh bien les multituberculés vont aussi disparaître. Alors ça ressemble beaucoup aux mammifères modernes. Ils ont des petits animaux qui ressemblent un peu aux marsupiaux assez contemporains, et ils vont quand même... Même s'ils vont vivre pendant 120 millions d'années, ils ont quand même des critères assez différents des mammifères modernes.
Donc les mammifères et les dinosaures ont cohabité au Jurassique. Et finalement, tu parlais d'un animal qui ressemblait à un castor, si je ne m'abuse. Alors, quelle forme, enfin, qu'est-ce que ça donnait?
Oui, c'est ça, ce sont des animaux qui ressemblent un peu à des castors, avec un nez plus pointu, hein, on voit à peu près pour Castorocoda. Et puis, il y avait également des écureuils volants, des animaux qui ressemblaient aux écureuils volants actuels, des animaux qui ressemblaient à des sortes de mangoustes, de petits singes aussi. Alors, c'est des formes qui sont difficiles à décrire, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que nous. Et en plus, les dessins de représentation de ces animaux restent des représentations, ça reste des dessins d'imagination. On n'a pas la totalité de leurs ossements,
les pieds coloris,
coloris, même si on sait qu'ils avaient des poils, si on sait qu'ils avaient des mamelles, et que déjà ils étaient capables d'avoir un sang homéotherme, un sang chaud comme on dit, et donc ils étaient capables de faire plein de choses. Parce qu'il faut imaginer que si les dinosaures étaient à l'évidence des géants, hein, qui étaient présents partout sur la planète, les mammifères, ils devaient quand même se cacher, ils étaient beaucoup plus petits. Ils vivaient probablement dans des terriers, et dès la différence de taille entre les dinosaures et les mammifères, on a imaginé que la plupart des mammifères étaient nocturnes, capables de fuir de la vie diurne, alors que les reptiles, les grands reptiles dinosauriens, étaient probablement plutôt des animaux diurnes.
Qui se réchauffaient au soleil,
finalement, au soleil. Alors, c'est plus discuté, parce qu'on sait que certains dinosaures étaient capables d'une certaine forme d'homéothermie, donc c'est assez compliqué à comprendre, on ne sait pas trop où on en est. En tout cas, les mammifères ont réussi à survivre à l'époque, ils étaient assez présents, et on sait qu'ils étaient probablement tous nocturnes, en fonction de la taille de leur cerveau, de leurs yeux. On n'a pas la preuve pour tous, mais en tout cas, ils avaient déjà une grande diversité d'adaptations alimentaires, capables d'utiliser plein de niches écologiques. Et en même temps, il y avait les autres reptiles, hein, il y avait déjà des serpents, il y avait des lézards, il y avait des crocodiles aussi à la même époque. Et donc, les reptiles étaient quand même très majoritaires. Les amphibiens, dans le même temps, vont connaître une certaine décroissance. On va avoir de moins en moins de gros amphibiens au profit de petits amphibiens qui vont se développer, les ancêtres des grenouilles, des salamandres et des tritons.
Finalement, les multituberculés étaient les petits rongeurs de l'époque et ils devaient se faire manger par les gros dinosaures.
Alors, par les gros et les moyens dinosaures, pas de chouettes à l'horizon à l'époque pour manger les petits rongeurs, pas de petits carnivores non plus trop présents, même s'ils devaient se manger les uns les autres. En tout cas, ce groupe d'herbivores, les multituberculés, avait beaucoup d'importance puisqu'ils ont permis en effet tout un ensemble de mises en place d'adaptations particulières, dont certaines ont raté, d'autres ont réussi. Par contre, ces mammifères-là ont disparu, hein, les multituberculés, remplacés uniquement par les autres. Et on va voir apparaître il y a 160 millions d'années, un petit peu avant l'apparition des premiers oiseaux, donc toujours pas de chouette à l'horizon, on va voir apparaître des animaux de la taille de l'opossum, des marsupiaux, de la taille d'une grosse souris, quoi, en gros. Mm-hmm. Et puis, les tout premiers mammifères placentaires qui vont apparaître déjà à l'époque. Donc, on voit très bien qu'on ne connaissait pas à l'époque les mammifères du Jurassique pendant longtemps. Et il n'y a vraiment que quelques années qu'on a découvert ces fameux mammifères du Jurassique avec leurs dents acérées. On pensait qu'ils avaient des régimes strictement insectivores ou carnivores, et puis on n'envisageait pas que certains d'entre eux pouvaient être herbivores. Maintenant, on sait que toutes ces espèces-là vont présenter toute une niche écologique particulière, et donc il y a une sorte de tronc commun, hein, depuis la découverte d'animaux comme Megaconus ou Cynoconodon, par exemple, qui vont être contemporains des dinosaures à plumes et des oiseaux, et qui étaient capables de s'attaquer aux plantes et aux graines de l'époque, de cet environnement-là. Mmh. Donc il faudra attendre l'arrivée des plantes à fleurs et à graines pour que les mammifères changent complètement, et donc ce groupe-là, lui, va disparaître. Ils étaient aussi insectivores, ils étaient capables de manger ces petites proies-là, et puis ils étaient la proie de beaucoup d'autres animaux, notamment de petits dinosaures. Par exemple, c'est dans l'endroit où on a découvert le fameux diplodocus, et puis aussi des tortues et des crocodiles, qu'on a découvert le frutaphosaur. Le frutaphosaur qui est une adaptation étonnante, puisque c'est une sorte de taupe, hein, un animal, un mammifère, hein, qui ressemble un peu à la taupe, capable de fuir, de creuser des terrains et d'avoir
mais
un régime insectivore. Fruits,
c'est pas du fruit, ils mangeaient pas des
fruits. On sait pas trop, en fait. Probablement qu'ils mangeaient aussi des insectes coloniaux. Les pattes antérieures ont un numérus qui montre bien qu'il est adapté à gratter, à creuser. Et les mains sont des véritables pelles, un peu à la manière des taupes. Donc on a déjà des adaptations très poussées. Après, la forme exacte de l'animal est difficile à décrire. Et sa denture était aussi très spécialisée. On a affaire maintenant à des animaux qui vont avoir des plusieurs dents. On appelle ça des cuspides. Alors, au lieu d'avoir un seul cône, comme c'est le cas des crocodiles ou des lézards, les dents vont avoir deux ou trois cônes, jusqu'au quatrième cône qui va apparaître bientôt. Et on aura là, du coup, des vrais molaires capables de broyer qui vont apparaître. Tout ça, évidemment, c'est principalement connu maintenant parce qu'on a découvert donc, toutes ces espèces-là. On a découvert aussi l'agylocodon. L'agylocodon qui est un animal capable de grimper, de passer sur des arbres. On a le volaticotherium qui est une sorte de rongeur volant. Et donc là, avant l'arrivée du Crétacé, on a quand même beaucoup d'espèces maintenant du Jurassique, des mammifères du Jurassique dont on ne pensait pas qu'ils étaient capables de telles adaptations.
Esquina del tapón, le papis el hibermas, con patatas bravas o tortillas platas. Doquito que de la plancha, romón de la mancha, catalano mallorquín, Montserrat tupín, bacarmín, cocina de extén, terremoto, contra académica, Carmen caminanda, vale pin spine negaru. La boca, este le pare liadas, ele pale, sabules ayolis, como una emulsión de pagaye, dabo de torale. Ça c'est pas épicé, Alsace, Sansau, Saint-Vincent, Créolisé, Touyalisé, Guilé, Guilé, Boumélé, Touyé, Touyé, Choupine de Havas, Pomme Quaitis, Tomates, Patatas, Bichuelles, Farci de Mémoire Tactile, Combino Tinto, Vino Claro, Interpretación del Lomo, Of Vif, Pimenta de Espeleto, Crustace, Cucurbita, Sué, Langoustine, Langousta, Aoui, Pied de Cochon de Main, Escargot à la Montalban, Aïoli, Sicumin, Evan, Socrate, Manche, Café, Rum, 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 Rum,
C'était l'Esquinade par Mainvielle. Nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, une radio associative, pas comme les autres, une radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et toujours à la recherche de nos beaux mammifères. Thierry, nous arrivons donc au Crétacé.
Eh oui, nous voilà arrivés au Crétacé, c'est-à-dire la période qui suit la grande période des dinosaures du Jurassique. Durant le Crétacé, la Pangée va donc se scinder pour former les continents actuels. Alors ça va dériver lentement pendant toute cette époque-là, avec une position donc un peu différente de la position actuelle, mais qui est en train de se faire. Les plantes vont se moderniser. Au milieu du Crétacé, on verra apparaître les plantes à fleurs. Les conifères vont évolué pour arriver aux conifères modernes, et puis les premiers représentants d'arbres modernes, les figuiers, les sycomores, les magnolias, vont apparaître. Les mammifères sont toujours petits au début du Crétacé, car la faune est encore dominée par les dinosaures.
Non.
Les grands dinosaures. C'est la grande époque, par exemple, du Tyrannosaurus rex qui apparaîtra à la fin du Crétacé. Alors, il y a quand même des mammifères. Hein. On a par exemple Reponomanus qui vit au Crétacé. Alors, c'est pareil, il a été découvert en Chine très récemment. Eh bien, c'est un grand mammifère prédateur. Il a 15 kilos. 15 kilos, c'est un des plus grands mammifères de l'époque.
Enfin, 15 kilos.
Ça nous paraît petit, mais c'est déjà beaucoup trop grand pour pouvoir se cacher sous terre aussi facilement que ça.
Oui.
15 kilos, c'est quand même plus grand qu'un renard. On a déjà affaire à un animal qui se nourrit de petits dinosaures. On en a la preuve. Il va capturer les petits dinosaures. Et toutes ces espèces-là ont des dents déjà tout à fait différentes. On a des dentitions qui se mettent en place déjà à l'époque. Et par exemple, on reparle de Repenomanus du début du Crétacé. Eh bien, c'est un animal comme l'écureuil volant, capable de passer d'arbre en arbre. Alors, le début du Crétacé, ça veut dire environ 130 millions d'années. Hein, on est quand même dans des périodes très loin. C'est un prédateur assez trapu qui ressemble c'est le Volaticotherium qui est capable de passer d'un arbre en arbre. Le Repenomanus, c'est un prédateur qui est plutôt ressemblant au blaireau. Hein. Lui, il fait un mètre de long, il pèse 15-20 kilos, alors que le petit animal capable de voler d'arbre en arbre, c'est un écureuil volant en gros, lui, il fait
plus à peine
4 kilos. Quoi.
Oui.
Voilà. Mais tout ça, c'est à la limite du début du Crétacé. Puis au cours du Crétacé, on va voir se mettre en place les représentants actuels, avec l'évolution des dents vers la molaire, hein, on va avoir ça, donc une capacité maintenant de broyer les végétaux, de broyer les proies, de broyer les insectes. Et on va avoir les trois grands groupes modernes qui vont se mettre en place, les trois grands groupes de mammifères modernes. Le premier des groupes, c'est les monotrèmes. Les monotrèmes, actuellement, il nous reste des monotrèmes, l'ornithorynque, qui est un animal qui pond des œufs, mais c'est un mammifère. On va avoir les métathériens. Alors, à l'époque, c'est des cynodelphys, mais ce sont des animaux qui vont donner petit à petit donc, les marsupiaux modernes, avec une gestation très courte, hein, comme chez le kangourou, par exemple, c'est 42 jours de gestation, la même gestation que celle d'un chat, alors que la vache, elle, a fait 11 mois de gestation. Enfin, on est vraiment dans des périodes très, très, très différentes. Et puis, il y a les eutériens, qui sont, eux, les mammifères modernes, les mammifères dits placentaires. Alors, il faut attendre un peu l'Europe, puisque c'est en 2009, c'est tout récent, hein, qu'il y a une découverte très importante qui a été faite en Charente-Maritime. C'est un animal tout à fait nouveau, puisque, en fait, là encore, c'est l'Université de Rennes qui a fait cette découverte avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris et le CNRS. Ils ont découvert l'Archontiodelphys, qui est un animal vieux de 99 millions d'années, donc en plein milieu du Crétacé, et c'était bien un marsupial. On en a maintenant la preuve. Donc on voit très bien que ces animaux marsupiaux étaient présents en Europe. Donc il y a eu des voies migratoires qui les ont fait passer en Amérique, puisqu'ils ont disparu d'Europe. Hein, il n'y a plus de marsupiaux en Europe. Il n'y en a plus qu'en Amérique du Sud et en Australie. Et donc on commence à connaître un peu ces voies migratoires, ces animaux étaient capables de coloniser. Et puis bien sûr, il y a les fameux eutériens qui sont tous à des placentaires, avec le plus vieux d'entre eux connu, le Henomaya, qui a été découvert en Chine et qui date lui aussi du début du Crétacé. Ça ressemble à une sorte de petite souris, c'est un peu plus grand qu'une souris, ça fait déjà quand même dans les 150-200 grammes. Et on a des animaux qui vont ressembler petit à petit à la belette, etc. Parce que, en fait, le problème, c'est de savoir quand est-ce que ces animaux se sont séparés, se sont diversifiés. Est-ce qu'ils se sont diversifiés avant ou après la disparition des grands dinosaures ?
Oui, alors en fait, c'est un débat qui a longtemps divisé. Est-ce que les mammifères se sont diversifiés avant ou après la disparition de cette crise cathée détruisant tous les dinosaures ?
Alors oui, il y a 65 millions d'années, tous les dinosaures vont disparaître d'un coup ou presque. On pense que ça a duré quand même un certain temps. Mais effectivement, pendant longtemps, la science avait tranché. C'était si les ancêtres des marsupiaux étaient déjà là, ceux des mammifères placentaires ne sont probablement pas apparus à l'époque. Ils sont apparus qu'à la fin, qu'après les dinosaures. Et c'était des animaux qui étaient plutôt petits, entre 6 et 200 grammes, et qui étaient insectivores. Faux ! A répondu Olaf Binila Edmonds. Les mammifères, eux, se sont diversifiés bien avant la fin des dinosaures. On en a désormais les preuves. Les dinosaures terrestres ont disparu il y a 65 millions d'années, mais avant cette période-là, en analysant l'évolution de la dentition des mammifères, eh bien, ces biologistes américains finlandais ont montré que ils avaient réussi à diversifier leur nourriture et qu'ils avaient profité de l'apparition des plantes à fleurs. Ce qui veut dire que les premiers mammifères sont apparus avant la grande crise Katée. Ces mammifères ont commencé à se diversifier. Ils étaient capables de ne plus être en concurrence avec les dinosaures qui, eux, étaient liés encore aux grandes fougères arborescentes, etc. Capables de se multiplier. Et en fait, bien avant la disparition des dinosaures, près de 20 millions d'années avant la disparition des dinosaures, on avait déjà des mammifères. Alors c'est un débat qui n'en finit
mais
pas.
Mais en même temps, est-ce que tu disais pas que certains mammifères pouvaient manger les petits des dinosaures, enfin
oui,
les tout petits.
À fait.
Donc quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas contribué indirectement aussi à la disparition des dinosaures,
C'est possible. Ça a toujours été très discuté, mais c'est vrai qu'en règle générale, on pensait vraiment que les mammifères étaient présents après la grande crise du Crétacé, cette fameuse crise où la comète est tombée du ciel sur la tête des dinosaures. Après l'hypothèse d'Alvarez.
Voilà, c'est ça.
Et en fait, on sait maintenant que non, c'est pas vrai. Ils étaient déjà diversifiés 100 millions d'années, 99 millions d'années avant, alors que c'est-à-dire une trentaine de millions d'années avant le début de la crise. Et tout ça, ça reste discuté. Alors en plus, il y a eu d'autres études qui ont été faites, notamment des analyses de l'ADN à partir des espèces actuelles. Et ils ont travaillé sur les taux de mutation, puisqu'on appelle ça des horloges moléculaires, parce qu'on sait que la mutation intervient tous les temps d'années, etc. Et donc si on étudie des protéines, des acides aminés, on peut découvrir comment les mutations se font, et comme elles se font de manière plus ou moins régulière, on peut séparer les espèces et les dater. Alors par exemple, c'est ce qu'a fait Christophe Douady, qui est à l'Université de Lyon 1. Et donc ça permet d'établir à quelle vitesse ces mutations se sont présentées, et donc à quelle vitesse des animaux reptiliens sont devenus des mammifères. On appelle ça l'horloge moléculaire. Le problème, évidemment, c'est de connaître la vitesse de cette horloge moléculaire, et c'est assez difficile, malgré tout, d'être certaine qu'elle est tout à fait régulière. Mais, en tout cas, la méthode a permis de nous montrer qu'en fait, ces espèces étaient beaucoup plus présentes que ce qu'on pouvait penser, et donc, il y a une nouvelle chronologie qui se fait. On pense maintenant que cette chronologie remonte à 93 millions d'années, c'est-à-dire 30 millions d'années avant la crise des dinosaures, et qu'il y avait déjà une grande radiation des mammifères.
Radiation, ça fait penser à radier. Mais en fait, radiation, dans
c'est
ce sens-là, c'est une diversification.
Voilà. C'est plein de mammifères qui vont apparaître avec des niches écologiques, comme tu l'as dit, carnivores, herbivores, etc. On aura même peut-être les premiers grands groupes, comme par exemple les glires, sont les rongeurs, les lapins, les périssodactyles, les chevaux, les rhinocéros, les éléphants. Tous ces groupes-là vont apparaître, ou même les primates qui vont apparaître. Tout ça, il y a 75 millions d'années au moins, et donc avant qu'apparaisse le célèbre tyrannosaure. Le tyrannosaure est apparu après.
Ah bon ?
Donc on voit à quel point la disparition des grands dinosaures n'a pas entraîné le début de la diversification des mammifères. Non, l'évolution des mammifères actuels est en fait beaucoup plus précoce que ce qu'on pouvait s'attendre.
Est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait que cette diversification avant ?
Non, nous sommes en science, il ne faut pas l'oublier.
Bien sûr.
Effectivement, les gens se battent toujours entre eux. Et les paléontologues ne sont pas du tout d'accord avec ce scénario élaboré par des gens qui font de la génétique. D'abord, ils ne constatent pas du tout ce pic de diversification. Pour eux, c'est un foisonnement qui n'existe pas dans les archives fossiles. Donc, il y a quelques événements quand même qui leur permettent de dire que peut-être le réchauffement climatique a été un facteur déclenchant. Mais c'est surtout quand même, pour eux, il y a 50 millions d'années, c'est-à-dire après la crise du Crétacé. Et pour eux, il n'y a pas beaucoup de migrations, alors qu'évidemment, on a maintenant des preuves de ces migrations possibles sur l'ensemble de la planète. Tout est donc discutable. On sait qu'il y a le déclin des multituberculés, ça c'est clair, mais on ne sait pas encore ce qui s'est passé à cette époque-là. Toujours est-il que si les paléontologues refusent l'idée de la diversification, les généticiens continuent à travailler sur cela, et notamment en travaillant sur les primates. On a quand même maintenant, notamment en Chine, découvert des primates qui remontent à 125 millions d'années, comme par exemple les Oumaya, qui est un animal qui fait environ 25 grammes. On a également les Alambadeptes, les Simolestes, qui sont datés aussi d'avant la fin du Crétacé, même s'ils pourraient être des espèces qui sont apparues à peu près à la même époque. Reste que les paléontologues opposent un dernier argument. Ils disent « Oui, mais vos horloges moléculaires, elles ne sont pas précises. Ces horloges moléculaires, elles peuvent varier dans le temps. Certaines mutations peuvent aller très vite, d'autres mutations très lentement. Or, vous prenez ça comme une étude, comme si c'était régulier toutes les années. » Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les phylogénéticiens font quand même des efforts. Mais évidemment, je pense que la solution est un peu entre les deux. C'est-à-dire que très probablement que la radiation des mammifères date d'avant la fin du Crétacé et de la disparition des dinosaures, ouais, notamment avec l'apparition des plantes à fleurs, et que ça aura pu, en effet, provoquer aussi la fin des dinosaures, en même temps que la comète a pu mettre un terme à tout ça. Mais la comète seule n'est peut-être pas responsable. Il faut peut-être penser qu'il y a un grand bouleversement des faunes et des
fleurs. Et la comète aurait pu faire disparaître les mammifères les premiers mammifères qui étaient présents.
Tout à fait, mais comme on pense qu'ils vivaient nocturnement dans les terriers, oui, pour eux, ça aurait été moins grave. En gros, c'était ça l'hypothèse. En tout cas, on sait maintenant que les mammifères sont apparus il y a fort longtemps.
On passe notre vie à en faire quelque chose. On fait de notre mieux, bon, même si parfois c'est vraiment pas grandiose. On passe notre temps, le temps qu'on a ici-bas, à tenter de le remplir de jolis souvenirs qu'on emportera dans notre caisse en bois. Et puis arrive un jour où tu bois un peu trop, où tu te dis, tiens, ici j'enlevais la selle de mon vélo. Tu pédales, et puis tu butes sur un pavé. Et t'as mal, et t'as le côlon perforé. Toi qui as passé ta vie à faire toujours plus d'efforts pour laisser une jolie image de toi après la mort. Toi qui as toujours tendu vers une sorte d'idéal. T'es mort comme un con avec une hémorragie rectale. Est-ce que ça vaut bien la peine de s'en donner tant? Si c'est pour que la mort vous prenne au pire moment. Est-ce que ça vaut bien la peine de s'en donner tant? Si c'est pour tout gâcher au dernier moment. On passe notre existence à lui donner un sens. On se donne beaucoup de mal pour justifier notre présence. On cherche son chemin, on cherche sa place. On se plaît à rêver que peut-être on laissera une trace. Et s'il est vrai que l'on laisse toujours quelque chose derrière soi, et parfois c'est bien dommage, souvent il ne faudrait pas. Surtout quand le dernier témoignage que tu laisses de ton passage, c'est une boule de soumission coincée dans ton œsophage. Reste plus qu'à espérer que quand on part, on s'en va vraiment. Que notre âme ou je ne sais quoi ne reste pas flotter parmi les vivants. Moi, je crois que ça me rendrait triste, peut-être même triste vraiment, de voir que même ma propre mère n'est pas venue à mon enterrement. Est-ce que ça vaut bien la peine de s'en donner tant? Si c'est pour que la mort vous prenne au pire moment. Est-ce que ça vaut bien la peine de s'en donner tant? Si c'est pour tout gâcher au dernier moment.
C'était Gidieri qui nous interprétait « Est-ce que ça vaut bien la peine tout cela ?» Non, le « tout cela », je le rajoute. Hein. Mais nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Et dans une émission faite pour tous les cortiqués du bulbe, « Science en liberté ». Alors cette diversité, on la retrouve partout et les biologistes ne sont pas tous d'accord. Ce qui manque peut-être, c'est une explication de la crise cathée, finalement. On sait que la comète a eu un impact, mais il y a peut-être eu d'autres facteurs concomitants.
Oui, parce que tu as raison, Fiona, parce qu'en fait, si les paléontologues sont très contents de leurs archives fossiles, ils ont aussi quand même un trou par rapport à cette vraie diversification de cette époque. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des formes qui ont été étudiées à l'époque n'étaient pas liées au placentaire, donc on pouvait supposer que la plupart des mammifères étaient apparus après. Mais si les données génétiques nous donnent un peu l'inverse, c'est aussi parce qu'il y a probablement des facteurs écologiques dans la grande crise. La comète a pu faire disparaître les derniers dinosaures, mais bien avant, il y avait déjà l'exploitation des insectes, des plantes à fleurs qui sont apparues à la fin du Crétacé. Et tout ça, ça a pu participer à provoquer la crise qui a finalement détruit la totalité des dinosaures au profit du maintien et du développement de tous les petits mammifères, qui ne vont d'ailleurs pas se développer tout de suite après le début de l'Éocène. Mais il faut aussi penser que toutes ces données fondées sur la phylogénie moléculaire ne sont pas fondées que sur des taux de mutation. On a un autre argument qui est fondamental pour l'apparition des mammifères, c'est l'apparition du lait et de la gestation.
Alors, que s'est-il passé ? Comment le lait est-il donc apparu, finalement ?
Alors, c'est vrai que c'est important de penser que si on a l'apparition de la gestation chez les eutériens, c'est-à-dire de la capacité à être enceinte pour les femelles, le processus important, c'est d'abord comment faire pour nourrir les jeunes. Et ça, évidemment, on sait que si au départ, il y a des adhésions de l'œuf qui vont se faire sur la paroi utérine pour garder l'embryon à l'intérieur du corps, il a fallu bien avant qu'il y ait une autre manière d'alimenter les jeunes. Et c'est l'apparition de cette sécrétion tout à fait étonnante, le lait et l'allaitement, ce qui permet aussi de considérer que les mammifères étaient forcément très attachés à leurs petits et au développement des petits, qu'ils avaient un lien tout à fait différent de celui des reptiles qui passaient leur temps éventuellement à couver et à les nourrir, mais qui n'avaient pas cette période de lactation très, très longue. Alors, pour ça, c'est simple. Il suffit d'étudier quels sont les gènes qui sont impliqués dans la lactation et dans la placentation. La placentation, c'est le fait de fabriquer un placenta. Et la lactation, c'est évidemment le fait de permettre de donner du lait. Alors, à la différence du canari, de la vipère, etc., nous, on ne pond pas d'œufs. Et évidemment, l'intérêt, c'est qu'à part quelques exceptions chez les mammifères monotrèmes, on a, par contre, nous, une capacité à allaiter. Et ça, dès les mammifères monotrèmes. C'est-à-dire l'ornithorynque, il allaite ses petits. Et l'ornithorynque a dû apparaître il y a à peu près 100 millions d'années, 110 millions d'années, à l'époque où notre ami le tyrannosaure apparaissait à peine. Donc on est vraiment en pleine époque encore du Crétacé. Et pendant cette époque-là, le lait était déjà largement existant. Alors, on les allaite. Ces animaux, c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on est appelé mammifère, porteur de mamelles. Ça montre à quel point cet allaitement est un élément important de l'apparition des mammifères. Pendant longtemps, ça a été un véritable casse-tête, d'où ça pouvait venir. On n'avait pas de fossiles, donc on a dit qu'il fallait avoir une machine pour remonter le temps et aller voir ce qui se passait. Eh bien maintenant, on l'a, cette machine, parce qu'on possède la capacité d'analyser les gènes.
Oui.
Alors, les gènes, ça analyse les protéines, et dans le lait, il y a justement une protéine fascinante, la fameuse caséine. Alors, c'est intéressant parce que cette caséine, on la trouve que dans le lait des mammifères. Elle n'est pas présente chez la plupart des reptiles. Et même si ces reptiles ont inventé l'œuf, la capacité à évoluer par rapport à une petite mer intérieure, donc dans des milieux secs, contrairement à ce qui se passait chez les amphibiens, on en a parlé déjà, chez les vrais mammifères, la capacité à allaiter va donner évidemment quelque chose de très très différent. La lactation, c'est une fonction physiologique de toutes les femelles de mammifères qui permet la sécrétion du lait grâce à des glandes mammaires. C'est généralement lié à une hormone particulière, la prolactine, et c'est la succion du bébé qui va déclencher en fait cette capacité de développer du lait. Alors, il y a l'ocytocine qui joue un rôle aussi, hein, c'est une hormone qui va permettre de donner du plaisir au moment d'éjection du lait, ça va favoriser l'apparition des protéines du lait.
Donc chez la femelle, mais ce qui est amusant, c'est de constater que les mâles ont des petites aussi, non pas des mamelles, mais ont les appendices qui apparaissent. Comment se fait-il ?
Alors, les petits tétons chez les mammifères sont probablement le reste de ce que sont les mamelles chez les femelles, puisqu'on a le développement embryonnaire. Par contre, il y a bien quelque chose qui s'est passé qui empêche les mâles de produire du lait. Mais revenons à ce que c'est que le lait. Alors, au départ, évidemment, il faut comprendre cette substance productrice, fondatrice du lait. Cette substance fondatrice du lait, c'est la caséine, cette protéine du lait, ce qui est un liquide extraordinairement riche en calcium. Cette protéine du lait, en fait, elle provient d'un gène ancestral de la famille des SCPP, qui vont donner en fait un élément lié au calcium. C'est une grande famille dont fait partie aussi d'ailleurs, dont font partie également les dents, hein, enfin la formation des dents. Tout ça, c'est un peu lié. Mais c'est la caséine qui est la protéine clé. L'une des copies de ce gène a pu évoluer librement et avoir de nouvelles fonctions. On sait qu'en gros, on est parti de l'enrichissement d'un liquide qui permettait d'hydrater les œufs à petit à petit un liquide qui est devenu un liquide nourrissant. C'est probablement chez des animaux ressemblant aux ornithorynques que ça s'est passé. Chez les ornithorynques, ce liquide suintait de zones à proximité des zones génitales. Et en fait, on a retrouvé la trace de ces protéines très proches à partir d'animaux très anciens comme les monotrèmes. Et en étudiant la molécule, on sait que c'est apparu il y a non pas 60 millions d'années, mais 250 millions d'années, ce qui nous fait remonter au Trias.
Ah oui, alors.
Et donc là, on remonte vraiment très loin. Donc les premiers mammifères ont au moins 200 millions d'années et non pas 160 millions d'années comme on le pensait pendant longtemps. Si cette protéine du lait était présente au moins chez des animaux mammaliforme, eh bien évidemment, ça prouve que les animaux étaient capables de produire du lait sans forcément allaiter directement par des mamelles, mais ils pouvaient allaiter par des trucs, des éléments qui suintaient sur les poils, comme ça se passe actuellement chez l'ornithorynque, où les petits vont lécher le lait qui suinte entre les poils de la mère. Mais en même temps, on va avoir un regroupement de ces organes maternels, de ces canaux-là qui vont permettre la lactation, et ça va permettre une nutrition totalement alternative, plus besoin d'apporter des petites proies, des insectes ou des choses comme ça se passe chez les oiseaux que l'oiseau va ingurgiter ou que le dinosaure devait ingurgiter. Là, on est capable de produire un liquide que l'animal va sucer. Ça va être beaucoup plus régulier. L'animal en aura régulièrement à des heures données et donc sa croissance va pouvoir être continue. Il va pouvoir développer, parce que le fait d'être homéotherme, ça coûte de la chaleur aussi, ça coûte de l'énergie. Et bien là, il aura l'énergie nécessaire pour développer tout ça. Et on sait maintenant que ces gènes, ces capacités génétiques vont être actifs depuis le début, depuis 240 millions d'années, 250 millions d'années. En fait, petit à petit, la caséine va modifier les gènes des animaux ovipares et va s'associer à des éléments de viviparité. Tout montre que les gènes ont des fonctions tout à fait particulières. Mais c'est parce que le lait est devenu riche avec cette protéine de la caséine, puis des graisses et puis d'autres éléments, que petit à petit, il a pu se substituer aux autres aliments présents sur la planète à l'époque.
En même temps, ces animaux sont donc devenus placentaires. Ils ont développé le fameux placenta.
Alors le placenta, c'est ce tissu qui fait la liaison entre la mère et l'embryon, hein, qui permet le développement de l'embryon. Mais c'est une époque qui est très mal connue. On ne sait pas trop comment les choses se sont passées. Ce qu'on sait, c'est chez les mammifères, au lieu d'avoir un gros œuf avec beaucoup de jaune, beaucoup de substances vitellines, eh bien, on a un œuf sans substances vitellines. Ça veut donc dire qu'il y a un facteur qui a fait disparaître cela. Et en même temps, l'œuf est effectivement gardé à l'intérieur du corps. Cette rétention de l'œuf à l'intérieur du corps de la mère est probablement celle qui va déclencher l'apparition du placenta et ce développement de cette capacité nutritive entre la mère et le jeune. Le vrai placenta qui permet des échanges entre la mère et les jeunes va donc remplacer le vitellus du jaune des œufs des reptiles et des oiseaux. Et on passe vraiment à quelque chose de très très différent. Alors, pour comprendre évidemment ça, il faut comprendre le lien qui existe entre le fait de retenir l'œuf à l'intérieur du corps et le fait de faire cela. Et là, première surprise, si pour le lait, un seul gène permettait de suivre toute l'évolution grâce à l'évolution de la caséine du lait, eh bien là, on s'aperçoit qu'il y a plein de gènes, des centaines de gènes qui sont mobilisés. Ce n'est pas du tout une petite mutation qui a fait ça, mais c'est au contraire des populations de gènes dont certains avaient un rôle, qui vont changer de rôle en cours de route et qui vont s'activer ou pas s'activer. Et c'est très compliqué de comprendre ce qui va générer tout cela. On sait comment ça s'est passé, vaguement. On sait que certains gènes vont se développer et qu'on a les équivalents de ces gènes chez les reptiles, chez les oiseaux. En fait, il faut se rappeler que certains animaux ont déjà développé des capacités à retenir l'embryon à l'intérieur du corps, déjà chez les amphibiens. On retrouve ça aussi chez certains poissons. Chez les requins, on a
ça. C'est plus protecteur.
Donc, ça remonte il y a très très longtemps et c'est probablement, oui, protecteur par rapport à un environnement plus froid ou trop frais qui a permis ce maintien-là. Mais le vrai placenta n'apparaîtra que chez les mammifères placentaires. Alors, on parle d'une viviparité hémotrophe chez les placentaires, c'est-à-dire que c'est nourri par le sang, il y a un échange, non pas de sang, mais de nutrition grâce au placenta, qui est ce tissu particulier qui permet l'échange, alors que chez les autres animaux, on va parler plutôt d'une viviparité histotrophe, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui vont manger des tissus. On pense par exemple aux salamandres, dont les bébés sont capables d'être vivipares, mais parce que les bébés vont se manger entre eux. Donc on mange des tissus, ou on va manger des descamations de la muqueuse utérine. Enfin, c'est un autre type de nutrition. Voilà pourquoi on peut classer l'évolution de tout ce qui va être oviparité et viviparité en 5 groupes. L'ovuliparité, quand les œufs sont pondus, ce sont des ovules qui sont pondus. Par exemple, chez les grenouilles ou chez les poissons, la femelle dépose ses ovules et c'est le mâle qui vient les féconder derrière. On n'est donc pas dans de l'oviparité. La femelle ne pond pas des œufs, mais elle pond des ovules. Ovuliparité. L'oviparité, quand la fécondation a lieu à l'intérieur de la femelle, et donc du coup la femelle va pondre des œufs fécondés, comme chez les oiseaux ou chez beaucoup d'espèces dans lesquelles on va avoir une fécondation interne. L'ovoviviparité, quand la femelle va retenir l'œuf pendant un certain temps avant de le pondre, et donc ça va donner l'impression que les petits naissent vivants, mais en fait il n'y a pas d'échange avec la mère, aucun échange, rien du tout, c'est un œuf qui est gardé à l'intérieur du corps de la mère jusqu'à ce qu'elle le ponde, c'est le cas de l'orvet, de la vipère par exemple, qui sont ovovivipares. De la viviparité histotrophe, quand la femelle va laisser ses jeunes se nourrir par des descamations de sa muqueuse utérine ou par des œufs qu'elle va pondre à l'intérieur du corps, ou même parce que le petit va se nourrir de ses propres petits frères, dans le cas de la delphophagie chez les salamandres, par exemple, ou chez les requins. Donc c'est de la viviparité histotrophe. Et ensuite, la vraie viviparité, la viviparité hémotrophe avec le développement du placenta. Donc on a 5 méthodes de reproduction qui sont évidemment
publiées dans une revue sur la biologie de la reproduction, effectivement, et c'était 4 modes d'approche bien...
Tout ça, ça se retrouve dans une publication scientifique, bien sûr.
Wanna go out riding, I'll tell you how it's done. We can go out and have a burger tank. I'll tell you all about it, I've had in mind. Wanna go riding, don't have to go far. You fix the blowouts, I'll drive the car. Stop, dee da, dee da, do. Now explain it to me and tell me where you like to go. I told you that I would explain to you how it's done. Now when you let me go out riding and have some fun, now in case you want to go, now let me know. You're not telling me when you really like to go. Now if you want to go with me riding, we can really have some fun. If you buy the hot dog, I got the buns. Now dear, now can't you go? Now listen, when you explain it to me, tell me, did you know? Now you don't have to worry, we ain't so old. Now if you got the line, I got the pole. Now tell me dear, don't you know, we can go out for a good time, would you like to go? Now dear, now tell me about the dough. Tell me when you like to go. Now you don't have to worry about me going so long. Go have a good time, let's take a blanket along. Bum, beep, bop, boom, beep, bop, boom. Now explain it to me, baby, now tell you where you like to go. Soap and towel is included, too. Now tell them what goes on, you just take that with you. Now just tell me, dear, what you mean to do. I'll go out riding if you will, too, son. Beep, bop, boom, beep, bop, boom, boom. Thank you. maybe we go out and have some really fun. I told you, you get the hot dog, I'll get the bun. Down here, that's what I mean to say. Now, won't you go out ride with me and have a good time today, Santa? Weep, woop, woop, weep, woop, woop, woop. Bum, beep, bum, boom.
Freddy Spruell nous interprétait « Let's go riding ». Revenons à cette question fondamentale, la question qui nous préoccupe, l'évolution des mammifères. Et en plus, tu n'as pas répondu complètement tout à l'heure à ma question sur...
Je me suis caché en secret.
Tout à fait. Sur les faits que les mâles n'allaitaient pas et l'évolution de ces fameux appendices qui étaient nos mamelles.
En effet. Alors, effectivement, on est capable d'appréhender la formation du lait il y a très longtemps et on est aussi capable de s'apercevoir très vite que ce sont les femelles qui allaitent et non pas les mâles. La formation du lait, c'est lié à l'apparition de la caséine, il y a donc 250 millions d'années. Ça va se développer pendant des millions d'années, tout ça. Et pendant des millions d'années, va apparaître un phénomène bien connu chez tous les animaux, le fameux conflit sexuel.
Aha.
C'est ce conflit sexuel qui a développé le pénis, yes, contre les femelles, puisqu'au départ, les animaux n'avaient pas non plus d'organes d'intromission.
C'est vrai, une petite
différence. Oui, c'est une petite différence qui a beaucoup de conséquences. Petit à petit, les mâles vont imposer le fait de réussir à féconder une femelle en étant le plus proche possible d'elle, parce que les femelles trichaient. Les femelles faisaient semblant d'être fécondées, mais quand les mâles s'approchaient d'elles, comme chez les grenouilles ou chez les poissons, il y a beaucoup, par exemple, de femelles qui trichent et qui font semblant. Si elles ne veulent pas de ce mâle-là, elles disent « Non, moi, je fais comme si je déposais des œufs, mais j'en dépose pas », et le mâle, il se retrouve à arroser des pierres de son sperme, donc ils vont développer l'organe d'intromission. Ça, c'est le conflit sexuel. C'est-à-dire que l'intérêt des mâles et des femelles n'est pas le même.
Oui.
L'intérêt des femelles, c'est effectivement de produire une progéniture qui va, elles, dans laquelle elles vont laisser leurs gènes, mais elles ne vont pas pouvoir multiplier cette progéniture, car une femelle a un nombre d'ovules, un nombre de capacités à élever des jeunes qui est limité. C'est le sexe limitant, la femelle.
Pas limitant.
Alors que le mâle est le sexe limité, lui.
Mais
peut
oui,
produire,
effectivement, dans ta conception, oui.
Dans la conception du conflit sexuel, ouais, il peut produire des quantités astronomiques de sperme, de spermatozoïdes, qui pourraient multiplier le nombre de ses descendants. Bon, si on prend par exemple l'être humain, une femme qui fait une trentaine d'enfants, c'est énorme. Un homme, lui, pourrait faire facilement 30, 300, 400, pourquoi pas 1000 enfants s'il veut. Bon, il suffit juste qu'il trouve des femmes. Donc le facteur limitant pour lui, c'est la présence des femelles. Ça conduit donc à un conflit. C'est ce conflit sexuel qui se retrouve après dans les phénomènes de genre dans lesquels on veut enfermer les femmes, dans lesquels on veut générer tout un ensemble de facteurs. Donc on a une base biologique. Et sur cette base biologique se fondent le patriarcat, les éléments de la phallocratie, etc. Mmh. Mais chez les animaux, le conflit sexuel existe quand même. Ça veut bien dire que les mâles pourraient féconder beaucoup et que dans cette bataille entre les mâles et les femelles cherchent à exister en choisissant. Alors des fois, ce sont les femelles qui gagnent. Dans le conflit sexuel, c'est le cas de la mante religieuse, par exemple. Et dans d'autres cas, ce sont plutôt les femelles qui perdent. Chez la plupart des espèces de mammifères, les femelles assument tout le travail. Elles assument la fécondation, la gestation. Et pendant cette gestation, elles accouchent du petit, hein, c'est au moment de la parturition. Et là, elles vont en plus s'occuper du lait. Alors pourquoi les mâles ne s'en occupent pas?
Voilà.
Parce qu'ils vont courir le guidou. Parce que les mâles, ils vont chercher ailleurs à reféconder d'autres femelles.
Et en c'est gros, pour ça. Les appendices, les mamelles, pour les femelles, se sont accrus en même temps que le pénis, quelque part, s'est accru de par cette évolution-là.
Voilà.
C'est ça
mais c'est une exception, les mammifères. On n'a ça que chez les mammifères placentaires. Mm-hmm. Chez les autres mammifères, on n'a pas le même conflit sexuel aussi exacerbé. Conflit sexuel qui conduit les chevaux à être des animaux polygames avec un mâle qui va surveiller plein de femelles, ou encore, on va retrouver ça chez les otaries à fourrure et chez plein d'autres espèces. Et en même temps, on a face à ça des femelles qui vont résister en inventant tout un ensemble de choses, et notamment en inventant pendant cette fameuse lactation la nécessité pour le mâle de les nourrir elle-même. Et donc le mâle va être obligé de rester avec la femelle, ce qui va générer des mécanismes de relations sociales de petits groupes. Hein. L'humain lui-même est formé à la base à une écologie de vie en petits groupes, d'une trentaine de personnes à peu près. Et on va retrouver chez beaucoup d'espèces cette formation sociale qui fait que les mâles vont aller chasser, vont aller faire deux ou trois trucs, mais ils vont être obligés de revenir.
Chez les lions, par exemple, les femelles qui assurent la chasse permettent aux lions, en fait, de ne pas toujours revenir. Et c'est, les lions, eux, vont avoir un statut de dominant. Et ce lion dominant va être capable de tuer des petits lionnes. Mais les lionnes, en se regroupant ensemble, sont capables de résister à un mâle de lion. On va retrouver des groupes sociaux beaucoup plus démocratiques, comme chez, par exemple, chez les licaons ou encore chez les mangoustes, où là, on a même carrément un esprit libertaire. C'est-à-dire que ce sont les femelles qui s'occupent des jeunes, certes, mais elles s'occupent des jeunes que si les mâles restent de temps en temps avec eux. Puis s'ils ne veulent pas rester, ben, ils se cassent, mais ils ne sont pas nourris, on les défend plus, ils restent tout ça dans leur environnement. Mmh. Et donc il y a une espèce d'organisation particulière de la vie sociale qui va se mettre en place à partir de ce conflit sexuel. Mais c'est vrai que chez les mammifères, à la base, les mâles ont gagné la possibilité d'avoir un organe d'intromission et ils ont également gagné le fait que les femelles assurent la totalité depuis la gestation jusqu'à la naissance et après la naissance.
Travailler plus.
Mais femelles. Pas chez l'humain, parce que chez l'humain, pour aider à la lactation, on a inventé un outil, le biberon. Ce qui fait que les mâles sont maintenant autant capables que les femelles, ou du moins presque autant capables que les femelles, de s'occuper des jeunes.
Alors revenons à notre belle histoire. Que se passe-t-il à la fin du Crétacé ?
Alors c'est à la fin du Crétacé qu'on va avoir cette diversification des mammifères, peut-être déjà mise en place, mais qui va se prolonger. Il y a une époque un petit peu particulière parce où les oiseaux vont être majoritaires. On va avoir de grands oiseaux qui vont poser un véritable problème pour les vertébrés. Et les placentaires vont pas mal souffrir à cette époque-là. Hein. Beaucoup d'espèces vont petit à petit disparaître. Mais après cette grande transition, on va voir apparaître des insectivores, des omnivores, des carnivores et surtout des herbivores avec l'apparition de l'herbe et des graminées. On a bien toute une modification de l'écosystème. On voit que tout ça, c'est en lien dans une écologie évolutive où chacun va dépendre des autres. On va avoir les insectes pollinisateurs qui vont apparaître en même temps. Mais cette apparition de l'herbe, ça va surtout permettre à des animaux mammifères de développer ces niches d'herbivores. On va avoir des animaux aussi grands que des rhinocéros, hein, des très très grands mammifères. Mais cette augmentation de la taille va être précédée avant par des petites tailles d'animaux, parce qu'on va avoir des grands oiseaux dominants, des grands oiseaux comme le diatryma, par exemple, qui vont consommer des petits mammifères et qui vont avoir une très forte pression.
Je résume toujours, tu parles toujours de petites tailles, 50 kg, 20 kg. Mais nous avons bien des mammifères qui sont beaucoup plus gros, là, qui apparaissent, non ?
Eh oui, mais pas déjà à cette époque. Donc au début, après le Crétacé, donc l'Éocène, on va avoir une petite période qui va, au Paléocène supérieur, une petite période où les oiseaux vont être majoritaires. Et puis par la suite, petit à petit, on va voir les mammifères gagner en taille avec des animaux qui, à la fin du Paléocène, vont carrément dépasser les 50 kilos. Quand on va déjà avoir de véritables gros mammifères qui vont apparaître. Car en fait, la plupart des grands mammifères vont encore avoir des petites tailles et vont être assez peu nombreux. La mégafaune, qui va être composée principalement de grands herbivores brouteurs, va attendre que, d'abord, les graminées se développent partout sur la plaine, et ça va surtout attendre, il y a 30 millions, 35 millions d'années à peu près, c'est-à-dire l'Oligocène. C'est à cette grande époque qu'on va voir apparaître ça. Alors, on va avoir ensuite, après l'Oligocène, l'Éocène, des grands animaux comme le glyptodon, qui est un tatou géant de 2,50 m,
ah oui.
Le mégatherium, qui est un immense paresseux, qui va être un des plus grands animaux géants, l'Androsarcus, qui va être un grand carnivore, c'est lui qui va être à l'origine des baleines. Quitter la Terre pour aller voir les baleines. Et c'est à l'époque, en fait, de l'apparition de tous ces grands ordres de placentaires qu'on va avoir apparaître des grands ongulés qui vont petit à petit diminuer à l'époque de l'Éocène.
L'éléphant, le rhinocéros...
Toutes ces espèces-là apparaissent donc entre le Paléocène et l'Éocène, c'est-à-dire il y a 50 millions d'années jusqu'à 30 millions d'années. Mais la grande faune des événements, c'est principalement des grandes espèces, c'est principalement il y a 35 millions d'années pendant l'Oligocène, qui est une période tout à fait particulière. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le changement majeur, ça a quand même été le passage du Crétacé. Là, on a vraiment un truc très surprenant, puisqu'on a d'un seul coup les dinosaures qui vont disparaître, des grands, grands dinosaures, pour faire apparaître une petite faune pendant toute cette période-là. Et ça, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Et il y a plein de questions qui restent posées sur cette présence ou non de ces mammifères. On sait que le néo-darwinisme, qui part de petites mutations, etc., n'est pas très au point pour expliquer tout cela. Et en fait, même les néo-darwinistes eux-mêmes se posent des questions. Par exemple, on peut prendre la phrase de notre ami George Gaylor Simpson, qui en 72 avait publié: c'est comme si le rideau était descendu tout d'un coup sur la scène, où les rôles étaient occupés par les reptiles, particulièrement par les dinosaures, et ce rideau se serait levé à nouveau sur une même scène, mais cette fois-ci sans les dinosaures, et avec d'autres animaux en grand nombre, avec une nouvelle distribution, et avec, dans les rôles principaux, les mammifères, dont on a à peine évoqué l'existence lors des actes précédents. Il a raison, il y a bien eu une grande modification de la faune, et c'est, je pense, là, un état de l'écologie évolutive. Les interactions se sont modifiées avec l'apparition des insectes butineurs, des plantes à fleurs, de l'herbe, des graminées.
Toutes les cartes ont été redistribuées,
voilà.
En fait.
Les cartes sont redistribuées. Ce n'est pas simplement un petit problème de mutation génétique. On a toujours affaire, sur la planète, à des grandes faunes et des grandes flores qui se mettent en place en même temps. Ce sont des grandes crises écologiques parce que rien n'évolue tout seul. Il n'y a pas d'espèces qui peuvent évoluer toutes seules. L'humain dépend de l'apparition des autres mammifères, de la manière dont ça s'est passé. Et nous sommes en interaction avec les vers de terre. On est en interaction avec les abeilles. Interaction avec toutes ces espèces-là, avec les bactéries de notre corps, et on ne comprend pas pour l'instant que les interactions on a avec les éléphants. Alors on se dit, ben on peut tuer les éléphants, c'est pas grave. Mais si, c'est grave, parce que toute la faune et toute la flore est dans un ensemble de cohérence, d'interaction cohérente. C'est ça l'écologie évolutive. On évolue par l'écologie et pas par les mutations.
Et on parle bien d'une sixième crise presque, où on pourrait, l'homme là serait en cause de faire disparaître différentes espèces. Une crise.
En fait, nous sommes tous, les humains comme les autres, des enfants de l'apparition des grands éléphants, des grands lions, des grands tigres. Toute cette faune fait partie de notre présence à nous, notamment au Pléistocène, où on a une grande radiation, une grande diversification des faunes qui sont faites. Et nous, les humains, on est de la même dépendance que l'autre faune du Pléistocène. On a autant d'importance que tout ça. Et d'un point de vue écologique, on dépend non seulement des abeilles, mais des mouches qui vont butiner. On dépend des cirfes, on dépend de toute une série d'autres espèces. Je parlais du ver de terre tout à l'heure, mais de plein d'autres espèces, hein, de vers présents dans la terre, etc. Et si on fait disparaître ces espèces-là à coup de pesticides ou à coup d'autres choses, eh bien, on modifie l'écologie générale de la planète. C'est ce qu'est en train de nous indiquer la fameuse grande crise actuelle où on voit plein d'espèces disparaître et en même temps, un réchauffement climatique. Tout ça, c'est lié. On est en train, petit à petit, grâce au capitalisme contemporain inventé par cet esprit tordu de celui des hommes, en train d'inventer une crise particulière qui est peut-être en train de mettre fin.
Et sur une petite planète si réduite.
Les mammifères ont émergé depuis les grands reptiles mammaliens il y a 250 millions d'années. Et cela parce qu'ils se sont mis à boire du lait maternel. L'évolution est ici tributaire des femelles et de l'apparition d'une protéine particulière, la caséine. Mais ce succès évolutif des mammifères est resté lent, même si on peut aujourd'hui reconnaître, après les dernières découvertes en Chine et en France, que l'évolution des mammifères est beaucoup plus ancienne que prévu. Et puis, la radiation évolutive des mammifères implique plusieurs lignées, totalement indépendantes phylogénétiquement les unes des autres. Voilà qui étaye clairement une cause initiale de nature écologique. Plus que profitant de la fin des dinosaures sous le coup de leur comète, les mammifères se sont révélés en même temps que les plantes à fleurs, que les insectes pollinisateurs, et c'est la colonisation par les herbages qui a entraîné que les grands herbivores apparaissent, démontrant que les crises sont plus écologiques que évolutives en soi. Car l'évolution est une écologie évolutive où chacun dépend des autres. Personne n'évolue jamais seul. Pourtant, nous étions déjà là à la grande époque des dinosaures, et cela grâce à un cerveau bien développé, lié au tissu olfactif. Un cerveau sûrement plus sexuel qu'intelligent, moins cognitif que l'on proclame si on en croit le développement à venir de l'organisation capitaliste de l'exploitation de la planète et des humains. Le vieux monde marchand n'a cependant que 6000 ans, et c'est une forme bien simpliste de la réflexion corticale que de penser que la richesse consiste à exploiter les autres. Les mammifères connaissent le conflit sexuel, mais aussi les interactions les plus riches qui sont dans leur vie sociale. Et cette question sociale exige l'intellect contre le monde marchand, l'intelligence contre l'appauvrissement de la raison. Nous, les mammifères, sommes devenus des animaux ingénieux. Mais nous avons besoin de lait, d'amour et de penser notre monde pour vivre nos pensées, c'est-à-dire pour vivre enfin libres et libertaires.
Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi et nous allons conclure sur Betty Boop's Ma Planète.